filles et bonjour les garçons. Bienvenue sur le 4-9 en transition, l'émission qui vous parle de la transition écolo. Non, de votre transition écologique. Tout en dégustant des produits bio dans le studio. Aujourd'hui, on passe du champ à l'assiette, de la graine au bocal, du bocal de cornichons et de ketchup au burger. Bref, il fait froid, c'est le temps de passer au fourneau avec un épicurien. Faiseur de bonnes choses en bocal, j'ai nommé Simon Baudin, fondateur de cette petite entreprise locale du Maine-et-Loire, du nom très prometteur de French Cornichon. Comme son nom ne l'indique pas, il ne fait pas que des cornichons, puisque chez lui, en passant de la serre au laboratoire de cuisine, on retrouve du ketchup d'Anjou, ainsi qu'une sauce relish, bref, un véritable petit délice. Alors, durant cette pause repas, nous allons vous révéler qui se cache derrière The French Cornichon. Pourquoi est-ce aussi intéressant de manger bio, mais aussi local, et pourquoi soutenir des agriculteurs comme Simon, c'est aussi bon pour eux que bon pour nous, bien sûr. Pour nos papilles, mais également pour notre santé. Vous avez faim ? Alors bon appétit ! Simon, bonjour et bienvenue sur Radio G.
Bonjour Cathy.
Alors Simon, pour débuter cette pause déjeuner, peux-tu nous raconter depuis quand et comment a débuté l'aventure French Cornichon ?
Eh bien, l'aventure a commencé en juin 2018 à Chevirey-le-Rouge, dans les forêts beaugeoises au nord d'Angers. Et c'était un projet qui traînait depuis une dizaine d'années dans ma tête. Et que j'ai fini par concrétiser pour allier à la fois mon goût pour l'agriculture paysanne et mon goût pour la cuisine. Ça me permettait de faire les deux.
Pas mal. Qu'est-ce que tu faisais avant ?
J'avais un bar à vin, café-concert, et je faisais un peu à manger, je servais des bons petits vins naturels, et j'invitais des concerts dans le bistrot.
C'était où ça ?
C'était sur l'île de Béhar.
BER qui n'est pas encore inondé à cette époque de l'année, mais ça viendra bientôt.
Voilà.
Donc les gens venaient en barque pendant l'hiver, tout ça ?
On a eu des petits gueuletons inondés où les locaux venaient en cuissarde.
Génial.
Et en canoë, ouais.
J'aurais aimé voir ça. Faut pas faire tomber le matos dans l'eau quand tu viens jouer un concert.
Il y a eu quelques soucis. Il y a eu un groupe ou deux qu'on appelle les pétoches, mais qui sont finis par venir quand même.
Bon, Béhar que je vous conseille à tous, c'est assez sympa à voir quand même. Enfin, c'est sympa à voir aussi en été, quand il fait beau.
Surtout.
Et qu'on peut rentrer sur bateau. Dis-nous, Simon, qu'est-ce que tu fais pousser chez toi ?
Eh ben, je fais pousser les cornichons, parce que la French cornichon, mais pas que, c'est qu'une petite partie. Je fais aussi pousser beaucoup les tomates, les poivrons, les aubergines, les piments, les oignons, toutes les aromatiques, l'ail, tout ce qui rentre dans mes sauces. Je choisis les légumes pour ce qu'ils ont été sélectionnés depuis longtemps, comme variété ancienne, pour intégrer les sauces, les transformations, voilà. Tous ces légumes d'été que j'aime bien mettre à ma sauce.
Donc là, en fait, il n'y a rien qui ne vienne pas de chez toi dans tes bocaux.
Si, je ne fais pas encore le sucre de canne à la ferme. Je ne fais pas le vinaigre, je ne fais pas le curcuma ou le 4 épices. Mais pour les légumes, c'est 98% qui est produit par moi. Et si une année, je rate l'estragon ou l'ail, oui, je vais aller chez un voisin. Bio aussi, pour me dépanner, mais ce sera jamais que du dépannage.
D'accord.
Et à partir du moment où mes produits sont labellisés, sont intitulés fermiers, je n'ai pas le droit de faire autrement.
D'accord.
Et c'est mon choix.
Voilà. D'accord, ok. Et pourquoi des cornichons ? Et pourquoi bio en plus ? Au départ, je veux dire, avant le reste.
J'en mettais un petit peu dans mes assiettes de tapas quand j'avais mon bar à vin, mais j'en trouvais pas en bio, à la russe, ce qu'on appelle à la russe ou à l'américaine, les gros et gros doux à la nette. J'en trouvais pas ni bio, ni locaux. Et comme ça commençait à me titiller d'aller m'installer et de faire pousser des légumes, je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Et puis c'est là que je me suis rendu compte que c'était le cas de plus de 95% des cornichons qu'on consommait en France.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'ils viennent tous de l'autre bout du monde, d'Inde essentiellement, des pays de l'Est, Pologne, entre autres. Mais ouais, 95% de la production est partie, si je ne me trompe pas, dans les années 80 en Inde pour faire des économies de main-d'œuvre, pour faire plusieurs récoltes par an. Et ça a été un petit peu le coup de poignard des industriels dans le dos des producteurs à cette période-là, qui fait que même si les Français sont aujourd'hui persuadés qu'ils mangent du cornichon français parce que c'est des grandes marques françaises très connues, les cornichons ils sont mis en pot et assaisonnés en France. Mais ils ont fait des milliers de kilomètres en bateau cargo, dans des bidons, pour venir de l'autre bout du monde, pour la plupart. Ouais.
D'accord. Et en plus, parce que le cornichon dit à la française, en tout cas dans la recette, il n'y a que nous qui le mangeons, quoi, en substance.
Ouais.
Il n'y a pas d'autres pays qui aiment le cornichon acide.
Aucun autre pays ne tolère cette super acidité, quoi.
D'accord. Donc, consommer du cornichon bien de chez nous, ce n'est pas forcément facile au départ. C'est intéressant de savoir pour les gens dans le Maine-et-Loire, enfin en Anjou, qui est un producteur de cornichons. Il y en a d'autres ?
Ouais, le Lyon était un gros producteur de cornichons. C'est là qu'on trouve un des derniers producteurs de cornichons français, qui n'est pas en bio par contre, mais qui est resté installé historiquement là-bas. On a été une Anjou, Sarthe, Mayenne, un bassin traditionnel. C'était une petite culture de rente pour les fermes là-bas où au mois d'août on faisait du cornichon. C'est les enfants qui avaient la corvée de le ramasser.
Petite main.
Voilà, et les petites industries conserveuses faisaient des tournées un peu comme on fait pour récolter le lait dans les fermes.
Ouais.
Mais là c'était pour récolter les cornichons, enfin pour récupérer les cornichons ramassés chaque jour, puisqu'il faut les ramasser chaque jour.
D'accord. On va écouter Tom Waits, c'est ton choix.
C'est un des vinyles dont j'ai hérité de mon papa quand il m'a donné sa platine et les vinyles de sa jeunesse. Il y en avait une quinzaine, une vingtaine, et il y avait Tom Waits. Et j'ai continué ensuite à acheter des galettes de Tom Waits et j'en écoute toujours.
Il a une voix vachement particulière qui est quand même assez sympa.
Voilà.
Je vous le conseille pour ceux qui ne connaissent pas. Du coup, on va écouter Tom Waits avec Warm Beer, Cold Woman.
One of those nights. It's warm beer and cold women. No, I just don't fit in. Is every joint I stumble into the night. It's just how it's been. All these double-knit strangers with tin and vermouth and recycled stories in the Naugahyde booths and the platinum blondes and tobacco brunettes. I'll just be drinking to forget you. I'd light another cigarette and the band's playing something a Tammy Wynette and the drinks are on me tonight. All my conversations now I'll just be talking about you, babe. I'm pouring some sailor as I try to get through. I just want him to listen now. I said, that's all you have to do. He said, I'm better off without you. Until I showed him my tattoo. Get down to drinking. Tell the band to play the blues. And the drinks are on me. Now back up around.
Simon, quel est ton point de vue sur l'agriculture biologique, de ton expérience? Quelles en sont les contraintes au quotidien pour toi depuis que tu es installé?
Vaste question. J'ai découvert moi vraiment l'agriculture bio quand je suis parti faire un BTS d'agronomie tropicale en Guadeloupe en 99. Et j'avais fait un BTS à Angers en arboriculture, mais en conventionnel. Je n'étais pas encore sensibilisé au bio. Et quand je suis parti en Guadeloupe, c'était un peu pour travailler sur l'agriculture, l'agronomie tropicale, dans les métiers du développement, dans l'agriculture. Je me suis vite rendu compte, en allant faire des voyages d'études en République dominicaine, en Haïti, à Cuba, au Bénin, voilà, que les projets d'échange sur le développement entre ce qu'on a tendance à appeler le Nord et le Sud, c'était souvent des béquilles qui résolvaient aucun problème, quoi. Et que le fond du problème, c'était d'avoir une agriculture résiliente, je sais pas, une agriculture autosuffisante et vertueuse chez nous à la base, là où on se trouve, avant d'essayer d'aller, je sais même pas comment dire, apporter quoi que ce soit à l'autre bout du monde, en fait. Le fonctionnement qui est de faire pousser dans un pays tropical des protéines végétales qui vont nourrir nos élevages parce qu'on n'a pas la capacité de les nourrir, ou une logique économique, on marche sur la tête, en fait, tout simplement. Et donc d'en revenir, et on l'a vu ces deux dernières années, à du local, à de la proximité, ça a tout son sens dans l'agroécologie telle que moi je la conçois, en tout cas.
Et toi, en termes de l'envie et les contraintes, elles sont vraiment nées en Guadeloupe parce que tu as vu toutes ces choses?
Non, les contraintes, pour moi, elles sont plus d'ordre administratif.
D'accord.
Parce que c'est de la paperasse, parce que quand on fait de l'agriculture bio, on a plus de paperasse, on a une labellisation à payer, on a un coût pour prouver qu'on est propre.
En soi, c'est quand même assez dégueulasse, puisque les autres qui sont conventionnels, eux, ils payent rien pour ça. Pour dire qu'ils font avec des pesticides, avec du glypho, avec...
C'est un peu curieux, en effet.
Ouais.
Mais pour le reste, moi, j'ai jamais fait d'autres jardinages ou d'autres agricultures que celle-là, à partir du moment où j'ai fait des jardins. Depuis 15-20 ans que je fais des jardins. Et puis avant d'être officiellement, on va dire, agriculteur. Donc, je sais pas utiliser du glyphosate. Je sais pas.
Quoi? T'as pas la combi d'astronaute?
Je regarde pas les catalogues de légumes OGM avant de m'endormir.
Oh, mais quel manquement!
Donc, tous les pesticides, tous ces trucs-là, je les vois même pas comme une cohérence et même pas comme une solution, finalement. Parce qu'ils rentrent pas dans le cercle vertueux d'une ferme. Comme je suis en train de la faire pousser petit à petit en agroforesterie, en mélangeant les arbres fruitiers et les légumes avec la faune qui est présente et qui va m'aider à travailler. Si j'ai un hectare de culture de légumes tout plat avec aucun arbre au milieu, aucun petit passereau, aucun petit moineau va pouvoir venir s'approcher pour manger les limaces en excédent, parce que les rapaces pourront les chasser très facilement.
Si je peux me permettre, est-ce que c'est pas plus facile pour notre génération que la génération d'avant, d'agriculteurs qui a appris à faire ce qu'on appelle aujourd'hui du conventionnel et qui veut passer en bio, et que petit à petit il faut se défaire de toutes ces habitudes-là pour pouvoir revenir à quelque chose de plus sain?
Ouais, c'est encore en une troisième étape que je mettrais, c'est-à-dire que moi, à l'époque où je me suis formé, il y avait très peu de formation en bio. Fallait se balader un peu en France pour aller trouver. Aujourd'hui, je reçois des stagiaires ou des jeunes en formation qui viennent visiter la ferme. Je ne saurais pas te dire précisément, mais je sais qu'il y en a plusieurs en Maine-et-Loire. Et diversifié en termes de choix sur l'agriculture biologique classique ou sur la biodynamie ou encore sur la transfo. Ce qu'on trouvait beaucoup dans le sud de la France ou en Bretagne... il y a 15-20 ans, quand moi j'ai démarré, cette année c'est beaucoup plus accessible. Cette année, aujourd'hui c'est beaucoup plus accessible. Mais c'est vrai, comme tu dis, que j'ai pas eu à passer d'une agriculture conventionnelle à une agriculture biologique. J'ai directement démarré dans le bio, donc je peux pas trop me mettre à la place.
Je me souviens d'une fois où on avait discuté, enfin de cette fois où tu m'avais parlé d'une récolte et où tout avait changé du jour au lendemain, et que c'est, enfin moi j'avais aimé beaucoup quand tu m'avais raconté cette histoire de coccinelle, parce que je trouvais ça juste magique. J'aimerais bien que tu nous la racontes.
C'est peut-être pas l'année dernière, mais il y a 2 ans.
Il y a 2 ans, je crois.
Je faisais encore les cornichons sous tunnel, sous serre froide, pour essayer de hâter la production, parce que dans le petit coin dans lequel je suis, il fait froid encore tard le printemps. Le problème, ce que j'ai vite découvert, c'est que le cornichon, quand il pousse dans une atmosphère un petit peu plus chaude, il pousse plus vite et donc il est plus tendre. La chair de la plante en elle-même, puisque au printemps, il n'y a pas encore les fruits. Hein. Mm-hmm. Mais les tiges, les feuilles sont plus tendres et donc beaucoup plus accessibles pour les pucerons. Le puceron noir qui adore le cornichon. Et donc c'est vrai que cette année-là, j'avais planté 1000-1200 pieds de cornichon dans un tunnel.
Et ça commence à faire
et
beaucoup.
Et voilà. Mais ça devait être mai, juin, je sais plus exactement. Les pucerons étaient en train de les dévorer complètement.
Mais d'un jour à l'autre, en fait, ils sont arrivés comme ça d'un coup ?
Les pucerons, ils sont toujours présents. Ils ressortent au printemps, ils sont en latence en hiver, mais ils sont là, les maladies sont dans le sol. Voilà. À partir du moment où tu leur mets un buffet à volonté à disposition, parce que même si j'ai énormément de diversité dans mes cultures, même si j'ai des fleurs, de l'aneth, du basilic mélangé à mes cornichons, il y a quand même beaucoup d'un stock de légumes et de plantes qu'ils adorent au même endroit, et ils le sentent, ils le perçoivent, et ils se ruent dessus. Ce qui fait qu'en une semaine, c'est exponentiel. Tu passes de 10 à 1000 très très vite. Quoi.
Donc là, les cultures étaient recouvertes de pucerons en
voilà.
Une semaine.
Et j'avais beau faire mes petits traitements bio tout précautionneusement, le puceron, il n'est pas bête, il se cache sous la feuille de cornichon. Mmh. Et ce n'est pas facile d'y accéder. Quand on va mettre du savon noir ou des purins de plantes répulsifs, parce qu'on met pas de biocides, il y a des biocides naturels, mais on évite malgré tout parce que les abeilles aiment pas ça non plus, et que les abeilles en a besoin. Bah, après 8-10 jours, j'avais fini par arrêter de traiter, parce que on a beau traiter tous les 2-3 jours, quand ça fonctionne pas, ça fatigue la plante et les plantes étaient sur le point de mourir, quoi. Il y en avait déjà peut-être 5% qui étaient mortes.
Et là, tu t'es dit, j'enlève tout, j'arrête, je recommence.
Ben
tout.
Ouais, le vendredi soir, après une semaine de lutte, je suis allé voir les copains, puis je leur ai dit, bon, ben, si vous savez pas quoi faire lundi, j'arrache tout.
Donc là, t'es super déçu, t'es super mal.
Voilà, tu passes un mauvais week-end. Et puis finalement, je me suis pointé le lundi avec mon sécateur et mes bassines pour arracher. Et là, le puceron noir, quand il meurt, quand il se fait tuer par la coccinelle, ça devient une espèce de petit copeau blanc-gris. Et là, c'était couvert de
blanc gris.
De petits copeaux blanc gris, quoi. Le week-end, les coccinelles étaient débarquées en masse. Moi, elles étaient arrivées aussi vite que les pucerons avaient pu se multiplier, mais beaucoup plus vite que ce qu'on peut concevoir, quoi.
Tu leur as envoyé un petit message en disant hey, les meufs, ce serait pas mal de venir, voilà. Là, il y a matière.
Mais sans leur envoyer le message, j'avais pas mis de biocide. Et
ben voilà.
Et le buffet était là pour elles. Et donc. Quand elles ont eu fini de manger les pucerons qui étaient à l'extérieur des serres, elles se sont rendues compte qu'il y en avait encore et puis ma culture était sauvée, quoi. Sans que j'ai eu à intervenir plus que ça, finalement.
Une belle histoire.
Ouais.
Faudrait que ce soit comme ça tout le temps, ce serait parfait.
Ouais, j'ai eu un peu de bol quand même, ce coup-ci.
Ici, on parle de transition écolo progressive, partielle ou totale. Toi, tu as monté ton activité au cœur d'un domaine où d'autres ont également des productions. Est-ce que tu peux nous en parler brièvement ?
Ouais, on est sur ce qu'on pourrait appeler un écolieu, un éco-hameau. Mm-hmm. On est 4 foyers, dont 3 avec moi, travaillent en agriculture bio. C'est des histoires de copains de 15-20 ans qui finissent par se retrouver ou se rejoindre pour aboutir ce projet-là de... Peut-être pas d'adolescence, mais de jeunesse, où on se dit, ouais, ce serait quand même bien, on va avoir dans les Pyrénées, dans d'autres coins un peu partout en France, des petits éco-villages comme ça, et puis on
se dit pourquoi pas nous.
On se dit ça fait rêver, quoi. Et puis, ça finit par se faire avec les contraintes matérielles qu'il y a, l'accès au foncier en agriculture, quand on n'est pas fils d'agriculteur, c'est pas évident. Mm-hmm. Mais ça finit par se faire et c'est super de pouvoir s'entraider sur des activités agricoles différentes, mais sur une même vision du travail avec la nature et voilà, l'agriculture.
Ils font quoi du coup, tes voisins copains?
Mes voisins copains, il y a une famille d'apiculteurs, donc ils me prêtent leurs abeilles pour polliniser mes légumes.
Parfait.
C'est ça. Et je leur prête mes légumes pour nourrir leurs abeilles. Il y a deux, trois ruchers qui sont sur la ferme et puis les autres qui sont dans les grandes forêts alentour. Dans une autre des familles, Pierre est paysan boulanger et il élève des brebis solognottes. Il fait une race de brebis rustiques et puis des céréales anciennes. C'est pareil, j'utilise la paille de ces céréales pour pailler mes légumes. Le fumier des brebis me sert à nourrir les légumes également. Voilà, tout ça, c'est des échanges de coups de main, des échanges de matériel.
Et du bon sens.
Ouais, du bon sens, de l'échange, des questions, voilà. C'est toujours bien d'avoir quelqu'un proche avec qui tu sais que t'es sur la même longueur d'onde et à qui tu peux dire, là, je suis un peu bloqué, je tourne en rond. T'as pas une idée, voilà. Mmh.
Toi, t'as un labo, du coup, mais je sais que tu l'as auto-construit pour l'avoir vu, donc ça fait aussi partie des choses que... Est-ce que c'est une contrainte financière ou est-ce que, tout simplement, tu t'es dit à un moment donné, non, je veux fabriquer mon labo, en fait
Un peu des deux. La contrainte financière, elle est quand même là. Un labo de transfo, même si c'est pour de la transfo végétale, il n'y a pas les mêmes normes que pour de l'animal. J'avais pas 100 000 euros
à mettre dedans.
Le banquier... Il a quand même un peu... Ouais, c'est bien, mais on n'a pas trop de références. Et finalement, j'ai dû auto-construire le labo par souci d'économie. Et c'est enfin terminé, parce que c'est un sacré boulot quand on n'est pas dans le bâtiment. Même si j'ai eu des coups de main, chantier participatif, etc., de copains qui sont des professionnels du bâtiment, et ça m'a bien aidé. Mais je suis content de l'avoir fait un petit peu comme je l'envisageais, quoi.
On se refait une nouvelle pause musicale avec un super titre que tu as également choisi, qui est Méchamment Rétro de William Scheller. On écoute Rock'n'Roll Dollar sur Radio G. L'agriculture, tu connais. Cette année, par exemple, a été très compliquée. Qu'est-ce qui se passe après une année pareille?
Avant même que l'année soit finie, il faut commencer à réagir. Parce que le cornichon, c'est un des légumes les plus fragiles. Exigeant, alors qui n'aime pas l'excès d'eau et le froid. Et cette année, on a eu les deux. les trois quarts du temps pendant trois mois de saison. Donc j'ai un peu anticipé et donc j'avais mis en culture plus de tomates, plus de poivrons, plus d'aubergines, plus d'oignons, plus de tout le reste. Juste histoire de pas mettre mes œufs dans le même panier et un peu de bon sens paysan, voilà, diversifier. Donc je sais que la plupart des clients qui m'appellent veulent surtout les cornichons. Maintenant que ça commence à se savoir que le cornichon français a presque disparu, on me demande essentiellement du cornichon. Mais à ma petite échelle, c'est pas une si bonne idée que de ne faire que ça. Mmh. Et donc, ça me sauve la vie cette année, puisque je peux diversifier. Et puis, en cours de route, me dire je vais créer de nouvelles sauces à base de poivrons, de piments doux, de tomates. Voilà, des sauces que j'ai découvert lors de voyages ou en allant manger dans des restos ou même dans la rue. En mangeant un petit peu de nourriture de rue et puis qui m'ont toujours un petit peu chatouillé et donc il fallait se lancer, il fallait sauver la mise à cause d'une saison catastrophique en cornichon.
Et du coup ça a ouvert d'autres perspectives, ce qui est quand même plutôt pas si mal finalement.
Ouais, ça met un petit peu un coup de pied au cul, mais c'est pas, finalement pas un mal. C'est comme ça que on devient un peu plus réactif et puis qu'on finit par prendre plus l'habitude de se lancer, quoi.
Donc là, entre le ketchup et le relish, du coup, qu'est-ce que tu peux nous en dire en termes de production? Est-ce que, du coup, tu avais déjà tout prévu pour faire et du ketchup et de la sauce relish? Tu nous en parles un peu de cette sauce relish, parce que je suis pas sûr que les gens ils sachent ce que c'est quand même, c'est un peu spécial.
La sauce relish, j'ai découvert ça en regardant un documentaire sur les cultivateurs de cornichons, le gros cornichon québécois.
Génial.
Voilà. Qui, avec leur accent, expliquait que il y avait un sous-produit de la culture de cornichons qui était les cornichons oubliés, parce qu'on en oublie forcément, mm-hmm. qui deviennent un peu trop gros, et qu'on met à macérer comme les autres dans de la saumure pour qu'ils deviennent aigres doux, mais qui ont quand même des pépins, donc qu'on épépine, qu'on hache grossièrement et ensuite qu'on mijote avec des oignons et des poivrons, un peu d'épices.
Oh, sympa.
Et c'est la sauce à hot dog qu'on mange en Amérique du Nord, finalement.
D'accord, ok. Voilà.
Et moi, j'en ai fait une version, j'arrive pas trop à savoir si elle est plus de Chicago ou un peu anglaise, mais c'est la version avec du curcuma frais et des épices.
Ça y est, elle en commence à avoir faim, ça voilà. Y est, c'est fait.
Et qui marche alors bien avec le hot dog, mais moi j'avoue, je mange pas si souvent que ça de hot dog. Mais qui marche très bien avec juste comme ça déjà sur du pain, c'est bon.
C'est clair.
Ça marche avec la charcuterie, ça marche avec le fromage, ça marche dans le burger évidemment. Et puis ça marche même chaud avec du riz ou les pâtes. Finalement, c'est plus les clients après qui me donnent toute la possibilité des recettes qu'on peut faire avec ça, quoi. Donc moi-même, j'en redécouvre.
C'est super. Qu'est-ce que tu peux me dire des lieux de vente ici en Anjou? Où est-ce qu'on retrouve Simon et son ketchup et sa sauce relish?
Alors, en Anjou, parce que je suis pour l'instant quasiment qu'en Anjou, du fait que j'arrive pas à suivre la demande.
C'est beau, ça, c'est
mais
bien.
Voilà, ça fait que 2 ans que je commercialise, mine de rien. Eh bien, je suis dans la quasi-totalité des Biocoop angevines. Et très prochainement dans la nouvelle qui ouvre à Florideau cette semaine, je crois.
Ah, super.
Et puis, dans beaucoup d'épiceries, comme l'épicerie des Allées des Gourmets. Plein d'épiceries aussi dans tous les villages périphériques de la région angevine. Je fais le marché Lafayette le mercredi matin, en co-stand, c'est ça, en co-stand avec mes collègues de la ferme, le miel, le pain, donc le miel, le pain et les cornichons et les sauces qu'on vend chacun notre tour, tous les mercredis matin.
On va vous laisser en train de saliver et de penser à votre prochain dîner. Et désolé. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Je vous retrouve dans 2 semaines pour les prochaines aventures angevines, toujours sur notre chemin écologique. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur radio-g.fr ou sur le Facebook de l'émission, le 4-9 en transition. Je vous souhaite une superbe journée.